Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Alors présentons-nous ensemble devant le Seigneur notre Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français et qui va guider notre culte.
Je vous invite à la louange. Et qui, si ce n'est toi, Dieu du désert, Dieu de la crèche et de la croix, fais couler l'huile de la joie sur ma tête, sur mes mains, et dans ma chair et dans mes os, mets la fraîcheur de tes ruisseaux, la rosée de ton matin. Mon cœur est biche bondissante, mes yeux sont source dans les bois. Mes mains s'élèvent et s'étendent, et branches deviennent mes bras pour embrasser le ciel. Ma bouche est un nid d'oiseaux qui se presse sur mes lèvres, qui me quitte d'un coup d'aile. Alouette sont mes mots. Je suis le lac sous le soleil, je suis le sable sous l'écume, je suis le ver plein d'eau fraîche, je suis la paille de la crèche, je suis la nuit sous la lune. Et qui, si ce n'est toi, Dieu du désert, Dieu de la crèche et de la croix, fais couler l'huile de la joie sur ma tête, sur mes mains, et dans ma chair et dans mes os, mets la fraîcheur de tes ruisseaux, la rosée de ton matin. Béni sois-tu, car je suis la terre que tu ensemences. Nous sommes la terre que tu ensemences. Amen.
Et nous chantons ensemble donc le psaume 24, les trois premières strophes du psaume « La terre au Seigneur appartient » dans le psautier français.
Thank you.
Alors, vous pouvez prendre place. Alors, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être là et que chacun se sente vraiment ici comme chez lui, dans cette maison où nous sommes venus pour, ensemble, nous ouvrir un peu plus à notre Dieu. Grand bienvenue à Lita Basset avec reconnaissance, car vous êtes très très demandé, bien sûr, et donc c'est un privilège de vous avoir, et effectivement c'est un effort particulier de prendre le train au petit matin pour nous rejoindre pour ce temps de culte, et puis pour cette conférence de demain soir. Donc oui, nous avons un peu abusé, mais c'est par gourmandise. Alors bienvenue aux descendants d'Athanase Coquerel qui se sont donné rendez-vous ici même pour ce culte. Alors c'est vrai que pour nous c'est touchant parce que Athanase Coquerel était un pasteur du 19e siècle ici même qui a eu des difficultés face à la fermeture de l'église. Et en fait Athanase Coquerel a eu plus d'importance qu'il ne semble à mon avis parce qu'il a vraiment donné l'esprit à l'oratoire, donc un esprit alliant ouverture d'esprit et souffle de foi, c'est-à-dire à la fois un dialogue avec la culture, les arts, la philosophie, la littérature, mais avec une vraie dimension de spiritualité, de théologie, de prière. Et donc ça a inspiré aussi beaucoup d'actions au service des autres de la part de ces catéchumènes. Et donc c'est une joie d'avoir toute cette famille qui s'est donné rendez-vous ici. Alors pour la recherche de ce que Dieu nous donne à vivre, Lita Basset nous propose de s'ouvrir à trois traductions différentes du verset 9 du psaume 40. Avec la traduction œcuménique de la Bible, « Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est tout au fond de moi. » Avec la traduction de Chouraki, « Faire ton vouloir, Elohai, mon Dieu, je le désire, et ta Torah est dans mes viscères. » Et avec la traduction du rabbinat français, « Accomplir ta volonté, mon Dieu, tel est mon désir. Ta loi a pénétré jusqu'au fond de mes entrailles. » Et puis ce psaume 143 plutôt, au verset 10, avec une synthèse de ces trois traductions, « Apprends-moi à faire ton vouloir, car toi, tu es mon Dieu. Ton souffle est bon. Il me guide vers un sol uni. »
Je vous invite à nous placer devant Dieu avec notre difficulté à nous ouvrir aux autres et au tout autre, mais en nous sentant accueillis tels que nous sommes, ce qui nous permet de voir nos zones d'ombre. Mon Dieu, mon havre de paix, je t'apporte ce qui chante et pleure en moi tout à la fois. Les amours non aimés, les danses non dansées, les coupes vidées à moitié, la douleur que j'ai refusée, la joie que je n'ai pas célébrée, la bonté que j'ai mesurée, les élans aux ailes amputées, les dons non donnés, tout ce que j'ai épargné, tout ce que j'ai gaspillé, tout ce que j'ai tué, tout ce que j'ai vainement proféré, et ton royaume dont me sépare plus que jamais l'abîme de ma tiédeur. Mon Dieu, viens à mon secours. Amen. Nous entendrons une parole d'accueil inconditionnel de la part de Dieu. Quelqu'un sait toujours plus que toi-même. Quelqu'un veut, quand tu crois que rien ne vaut la peine, de vouloir encore ce pas et d'avancer. Quelqu'un se tient en sentinelle quand tu rêves. Quelqu'un, plus tôt que toi, s'éveille en ta demeure et d'un pas confiant sort sur le seuil. Il entend le cri que tu n'as pas poussé, mais qui t'étrangle. Il te parle et c'est ton secret qui lui répond. Et tandis que l'ennui de vivre te sature et qu'à force d'écouter la pluie, tu deviens boue, lui, il te bénit et te drape de lumière. Lui, il se réjouit que tu existes. Il est le vivant et il veut que tu vives. Béni soit-il dans le nom de Jésus. Amen.
Et comme confession de foi, je vous propose de suivre du cœur cette confession de foi qui a été écrite par un jeune homme, donc qui a été baptisé ici même il y a quelques mois. Je crois en Dieu, notre Père, en sa bienveillance et en la bonté qu'il garde pour chacun d'entre nous. Je crois en Jésus-Christ qui est venu nous livrer sa parole d'amour, il y a donné sa vie terrestre. Je crois en la force de son message qui donne l'espérance dans les heures de doute, lueur toujours présente même dans les ténèbres. Lorsque viennent peur, angoisse, doute, il nous accompagne et son message nous donne la force d'avancer pour nous et pour les autres. Il est également présent, même si nous le trouvons plus difficilement, quand c'est pour calmer notre colère ou accorder notre pardon. Je crois en l'Esprit Saint, souffle dans nos esprits, dans nos âmes, dans nos cœurs, pour y faire entrer la parole du Christ. Je crois en l'Église universelle, bâtie sur tous les cœurs dans lesquels sont présents la foi et l'amour. Je crois en l'amour qui jamais ne passera ni ne cédera à la nuit. Amen. À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place pour écouter la parole de la Bible.
Nous entendrons un texte tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. Et sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme, une cananéenne, sortant de ses frontières, cria en disant « Aie pitié de moi, maître, fils de David, ma fille est salement possédée. » Mais il ne lui répondit pas une parole. Et s'étant approché, ses disciples lui firent cette demande « « Détache-la, parce qu'elle crie derrière nous. » En réponse, il dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais étant venue, elle se prosternait devant lui en disant, « Maître, réponds à mon cri. » En réponse, il dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui dit, « Oui, maître, mais en effet, les petits chiens mangent une partie des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, en réponse, Jésus lui dit, « Ô femme, grande est ta foi ou ta confiance, qu'il t'arrive comme tu veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Et un tout petit texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, qui fait partie du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Et nous vous proposons de chanter donc dans le petit recueil Louanges et prières le cantique numéro 74. Les cieux et la terre célèbrent encore la gloire du Père, donc les quatre strophes de ce cantique 74.
Yeah. sa mère à sa vue.
Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante, nouvelle que tu as aujourd'hui pour chacune et chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation des Écritures anciennes, nous puissions nous ouvrir à cette nouveauté de ta parole. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que nous puissions ainsi recevoir la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route et pour avoir la force du pas suivant avec toi et avec nos frères et sœurs.
Des croisades à l'apartheid, de l'inquisition à la torture dans les démocraties chrétiennes, que n'a-t-on pas fait au nom de la volonté de Dieu ? Mais plus le Dieu de devoir coïncide avec les éducateurs autoritaires de notre enfance, plus les événements négatifs de notre vie apparaissent comme la volonté d'un Dieu avec lequel il est tout à fait inutile de discuter. J'ai remarqué que c'était après un coup dur, un malheur ou une catastrophe que nous disons, en tout cas traditionnellement, on disait « c'est la volonté de Dieu » ou « c'était la volonté de Dieu ». Et jamais après un exaucement ou une joie. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Dans le passé et encore aujourd'hui, parfois, les détenteurs du pouvoir l'invoquent encore cette volonté de Dieu, en fait, très souvent pour camoufler la leur de volonté. Mais remarquons que dans le Notre Père, la demande est à la voix passive, qu'elle soit faite ta volonté. Et dans la Bible, on sait que la voix passive indique toujours la présence invisible de Dieu qu'on ne nomme pas par respect. Donc on pourrait dire qu'elle soit faite ta volonté par Dieu lui-même, par toi-même. Littéralement même, c'est qu'elle soit réalisée ta volonté. Et comme le mot téléma veut dire à la fois le désir et la volonté, on pourrait dire qu'il soit concrétisé ton désir. Qu'il soit concrétisé ton désir, et littéralement, c'est comme au ciel, aussi sur terre. C'est d'abord le ciel. Comme au ciel, aussi sur terre. Dans le monde de l'invisible, comme ici-bas, en nous et entre nous. Dans les premiers temps du christianisme, les prières juives sur les volontés de Dieu à observer proliféraient. Ça n'en finissait pas, toutes les volontés de Dieu. Et par contraste, la demande du Notre Père, elle, gardait la même sobriété, même après plusieurs décennies de pratiques ecclésiales. C'est que, il me semble que la volonté de Dieu est et reste toujours un profond mystère. Un mystère aussi insondable finalement que son nom ou que son règne. C'est que nous ne la connaissons pas plus, sa volonté, que nous ne connaissons son nom imprononçable, qu'il s'agit pourtant de sanctifier, comme nous disons dans le Notre Père. Sanctifier veut dire mettre à part. Ne pas confondre avec le nom de quelqu'un d'autre. Que ton nom soit sanctifié. Mystère insondable. Et nous ne connaissons pas plus sa volonté que nous ne pouvons définir son règne, dont il s'agit pourtant de demander la venue, que ton règne vienne. Et rien ne peut laisser prévoir que cette volonté sera bonne pour nous, qu'elle nous fera du bien. C'est une demande qui suppose un fameux acte de foi. Mon Père invisible, je te fais confiance que quoi qu'il m'arrive, même les pires choses, tu veux infiniment, tu désires ardemment me donner cette joie dont tu as le secret. Et déjà, sur la terre, sur ma terre, dans cette vie, dans un autre passage de l'Évangile, il est dit « tout ce qui est à toi est à moi ». Donc, vous le disiez, c'est d'abord le ciel, comme au ciel, que ta volonté soit faite, ton désir soit concrétisé, comme au ciel, aussi sur terre. Comme si notre point de comparaison était le ciel. À croire que nous avons déjà une idée de comment ça se passe au ciel. Or, justement, le ciel, c'est important de dire que c'est quelque chose, ça n'est pas quelque chose de très lointain, ni quelque chose qui est repoussé pour l'au-delà, quand nous serons de l'autre côté du voile, mais que c'est le ciel désigne l'invisible au-dedans du visible, de notre visible de tous les jours. C'est une dimension, le ciel. Et nous avons une idée de ce que c'est dans le ciel, dans cette dimension de l'invisible, d'autant plus inspirante que Jésus est venu nous montrer comment le nom divin, son règne, son désir, pouvait prendre couleur humaine et comment sa volonté bonne pour nous pouvait se concrétiser dans notre quotidien. Alors, je vous propose d'accompagner Jésus dans 4 épisodes de sa vie, les 4 seules fois dans l'évangile de Matthieu, où Matthieu utilise cette même forme verbale, genetetō, qu'on peut traduire par qu'elle soit réalisée, qu'elle advienne, qu'elle soit réalisée. 4 fois où volonté de Dieu et volonté humaine en arrivent à coïncider parfaitement, à s'épouser d'une manière vraiment étonnante. La première scène se déroule à Capernaum. Un centurion, on dirait un soldat gradé, païen, nous dit le texte, on dirait aujourd'hui un croyant, supplie Jésus d'aller guérir son serviteur qui est paralysé. Et Jésus répond, « Moi, j'irai le guérir. » Comme s'il ne savait pas ce que Dieu attend de lui. « Dis seulement un mot, rétorque le centurion, et mon serviteur sera guéri. » Puissance de la parole. Puissance d'un désir tout entier tourné vers la vie et les vivants. « Dis seulement un mot, comme dans la Genèse. » Dieu dit, « Et cela fut. » Le gradé ajoute alors, « Moi, je suis soumis à une autorité avec des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Alors, Jésus ne tarit plus d'éloge sur la confiance ou la foi même de cet homme. Pourquoi ? Il me semble que c'est parce que ce soldat incroyant croit quelque chose. Il croit que son désir le plus profond est un désir de vie. Pour lui, pour ses proches, pour son serviteur. Et que ce désir peut être entendu et exaucé par cet homme Jésus qu'il sent intuitivement habité ou traversé par la vie justement, la vie en abondance. Qu'il soit fait ou qu'il soit réalisé pour toi comme tu as cru, lui répond alors Jésus. Tournure passive, à la voix passive pour dire que Dieu réalise pour toi, que sa volonté de vie bonne pour toi et pour les tiens soit réalisée à la mesure de ce que tu as cru, à la mesure de ton attente, de ton propre désir, dans la dimension invisible comme dans ta propre maison. Là, j'aimerais vous partager un exemple personnel. C'est qu'il y a un certain nombre de mois, j'ai dû subir, c'est vraiment dans l'impuissance totale, la destruction de relations par une amie de très longue date qui a tout à coup brutalement mis fin à la relation. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi. C'était une chose sans retour. C'était comme s'il n'y avait pas d'issue à vue humaine. Alors, il faut encaisser ça. Puis après, se dire spirituellement, qu'est-ce que j'en fais ? Il m'a été donné, en quelque sorte, une prière du cœur. Enfin, ce que nos amis orthodoxes appellent la prière du cœur. C'est-à-dire, c'est une petite parole qui est souvent inspirée de la Bible ou de la tradition chrétienne et qu'on peut se répéter comme un mantra. De façon à ce que le mental arrête de tourner, le mental qui dit c'est sans issue, il n'y aura pas de lendemain, c'est totalement détruit, il n'y a plus de relation, etc. Donc j'ai laissé cette prière en moi, je vais vous dire laquelle, descendre profondément, et cette parole, c'était, ça s'adressait à Dieu, et ça disait, tu fais ce que tu veux à Dieu. Donc ça m'a vraiment été donné, tu fais ce que tu veux. Et c'était... Ça venait vraiment d'ailleurs parce que ça a été vraiment très libérateur et apaisant et ça continue à l'être. Chaque fois que le mental recommence, destruction de relations, il n'y a pas d'avenir à cette relation, etc., il venait cette phrase, tu fais ce que tu veux. Et ce qui veut dire, je me tourne vers celui qui ne dépend de rien ni de personne. C'est comme si je disais à Dieu, tu ne dépends de rien, ni de mes prières, ni de ma soumission. Toi-même, tu n'es soumis à aucune fatalité. Le sans-issue n'existe pas pour toi. Et c'est quelque chose qui, quand ça descend profondément, est extrêmement libérateur. Et donc, je sais que j'ai à refaire cette prière du cœur autant de fois que nécessaire. C'est un peu comme quand Jésus disait à ses disciples, vous savez, pour Dieu, rien n'est impossible. C'est pareil, te dire, tu fais ce que tu veux. Alors, la deuxième scène se passe... probablement aux environs de Jéricho, je ne l'ai pas lu parce que vous la connaissez très bien. Matthieu nous la raconte en deux récits, en deux morceaux, mais il s'agit de deux aveugles qui implorent Jésus et auxquels Jésus répond « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» comme s'il n'allait pas de soi qu'il voulait retrouver la vue, y voir clair. Je me suis dit, mais pourquoi il a besoin de leur demander ce qu'ils veulent? Parce que c'est déterminant que nous nous connections, relions à notre désir profond, notre volonté profonde de vivre. C'est un désir profond, en fait, de vie heureuse, c'est-à-dire de vie relationnelle. C'est dans la Bible, la vie heureuse, c'est énormément, pour ne pas dire essentiellement, la vie relationnelle, la vie pacifiée avec les autres, avec soi-même, avec le tout autre. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et comment Dieu nous libérerait contre notre volonté? C'est déterminant que nous exprimions notre volonté, notre désir profond. Et parce qu'il se trouve quand même assez souvent que nous tenons à nos dysfonctionnements, à nos maladies, à nos handicaps, à notre cécité. Et que nous y tenons beaucoup plus que nous ne le savons. Parce qu'au moins c'est du connu. C'est sans surprise, c'est pas drôle, mais c'est sans surprise. Et que nous avons quand même souvent très peur de l'inconnu. Alors, question essentielle, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et quand les aveugles expriment leur désir, alors Jésus répond, qu'il soit réalisé pour vous, toujours ce même verbe, qu'il soit réalisé pour vous, qu'il vous advienne selon votre foi ou selon votre confiance. En d'autres mots, que la volonté du vivant soit réalisée pour vous, en vous, à la mesure de ce que vous attendez de lui. Si vos résistances intérieures sont telles que vous n'attendez rien, si vous n'attendez plus rien, si vous ne voulez, ne désirez, n'aspirez à rien du tout, vous n'aurez rien. La volonté de Dieu ne peut pas se passer de la nôtre. Voilà ce que j'ai cru entendre dans ces textes-là. Pour la troisième scène, c'est l'histoire de la femme païenne que j'ai lue tout à l'heure, nous nous transportons hors d'Israël, en pays étranger. Cette femme païenne, à moitié hystérique à force d'avoir mal à sa fille, se heurte à un Jésus intraitable. Vous l'avez entendu, désolée, tu es incroyante, ma mission est réservée aux Juifs. Un instant, nous nous demandons si Jésus ne va pas lourdement se tromper sur la volonté de Dieu. Mais finalement, il va faire exactement le contraire de ce qu'il croyait, de source divine, devoir faire. Et ça, c'est vraiment unique dans tous les évangiles, ce revirement à 180 degrés. Mais chercher et entendre, quand ça nous arrive, la volonté du vivant, pour les vivants que nous sommes, ça n'est pas du tout de tout repos, y compris pour Jésus lui-même. Ça passe par des combats, des crises, et là c'est vraiment un moment de crise, de combat intérieur je pense, puis même dans la relation avec cette femme, ça passe par des combats, des crises, des déstabilisations imprévues. Le texte dit que, le texte ne le dit pas, c'est moi qui ai l'impression que cette femme est en fusion avec sa fille, puisqu'elle dit « ma fille est possédée, mais aie pitié de moi ». J'ai l'impression qu'il y a un lien tellement presque fusionnel que c'est elle-même qui se comporte presque comme si elle était possédée, puisque le texte dit qu'elle crie par derrière. Le verbe crier en grec, kratzo, résonne un peu comme kraugazo, qui veut dire aboyer. Justement, les disciples vont dire détache-la, comme on détache une chienne qui crie par derrière. Vous voyez le symbolisme très fort. Détache-la. Et c'est presque un cri de bête blessée qu'on entend à ce moment-là. Or, Jésus commence par refuser la relation. Le texte dit, il ne lui répondit pas une parole. Refus de la relation. Indifférence, gêne, réflexe de défense, ou alors écoute profonde de ce que Dieu attend de lui, et pour l'instant il n'entend rien, comme nous si souvent. Il ne s'adresse pas à elle, le texte dit « en réponse il dit ». Ce n'est pas « il lui dit », c'est « en réponse il dit », comme s'il l'ignorait. Et c'est d'abord une parole terriblement excluante, « je n'ai été envoyé qu'aux Juifs, aux brebis perdues de la maison d'Israël, donc pas à toi ». Et puis, c'est une parole dévalorisante qui vient, parole humiliante s'il en est, puisqu'il dit, comme s'il récitait une leçon d'ailleurs, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors, non seulement il l'a exclu de la joie des vivants, mais maintenant il justifie cette exclusion par son impureté. En effet, les Juifs considéraient les chiens comme des animaux impurs. Mais la femme, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la femme s'accroche à sa volonté de guérir, à son désir de vie pour sa fille et pour elle, quels que soient ses sentiments de rejet, d'incompréhension, d'impuissance. Elle s'accroche tellement à sa volonté de guérir ou d'être libérée que le texte dit qu'elle vient à nouveau et se prosterne devant Jésus. Puis je me suis dit, mais ce verbe « venir », en fait, elle était déjà là. Ce verbe « elle vient » nous renvoie vraiment à la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, où on dit constamment de Dieu qu'il vient. Le Seigneur est proche, il vient. C'est un verbe central dans la pensée hébraïque. Donc je me suis dit, mais c'est comme si Dieu lui-même venait à travers cette femme. Elle vient à nouveau, se prosterne devant Jésus, et là de nouveau se prosterne. Mais alors, ça va très loin, parce que c'est comme si Dieu lui-même se prosternait devant l'être humain, dans la personne de cette femme, le suppliait Jésus d'accéder à ce désir profond de vie et de joie. Et le verbe qui est utilisé pour dire qu'elle se prosterne, c'est proscuneo. Si vous entendez proscuneo, ça ressemble énormément à cuone, en tout cas phonétiquement, qui veut dire le chien. Donc on voit comme c'est tellement proche, cette attitude de se prosterner devant quelqu'un, de supplier pour que cette vie lui advienne, cette vie bonne lui advienne. Et le mot cuone qui symbolise tellement ce rejet. Elle assume d'être comparée à un chien, au petit chien, mais elle défend leur cause. Elle a donc pris distance et elle n'est plus seulement une bête blessée. Et elle dit cette phrase extraordinaire, « Les petits chiens mangent une partie des miettes qui tombent de la table de leur maître. » C'est qu'elle veut à tout prix entrer en relation avec Jésus. Et ce matin, en relisant cette prédication, j'ai remarqué qu'il y avait cinq fois le verbe « répondre ». Dans ce texte. Ce qui est fascinant, parce que c'est un peu le fil rouge de l'histoire, c'est cette volonté à tout prix d'entrer en relation. Nous voulons, nous aussi, à tout prix, une réponse. Qu'est-ce que c'est une réponse ? C'est un vis-à-vis. Avoir un vis-à-vis, quelqu'un en face de nous. Le pire de la souffrance étant, je n'ai personne en face. Elle veut à tout prix cette réponse, c'est-à-dire un vis-à-vis. Et là, c'est à ce moment que Jésus entend pour la première fois que c'est Dieu lui-même qui suscite sa volonté humaine à lui, Jésus, à travers cette femme, que c'est Dieu lui-même qui veut qu'il lui réponde. Et il change complètement d'avis, et c'est limpide maintenant pour lui, « Ô femme, grande est ta foi ou ta confiance, de nouveau, qu'il soit réalisé pour toi comme tu veux, qu'il t'advienne comme tu veux. » On a exactement les termes du Notre Père, là. Bon, vous ne pouvez pas trop le voir, mais je fais exprès de dire toujours « soit réalisé » parce que c'est vraiment le terme dans le Notre Père. Et ici, on ne demande pas à Dieu que ta volonté soit faite, mais c'est Dieu lui-même en Jésus qui dit à cette femme « que ta volonté soit faite ». C'est quand même fascinant, non ? « Que ta volonté soit faite », parce que c'est une volonté de vie, c'est une volonté de liberté, c'est tout ce que Dieu voudrait justement lui donner. Comment dire plus clairement que si Dieu exauce le désir le plus profond, même d'une incroyante, un désir de vie libre et authentique, en relation avec les autres avec l'autre, grand A, là où elle était possédée, c'est-à-dire prise dans un lien fusionnel terriblement mortifère, alors si c'est comme ça, c'est que notre volonté humaine a été créée à l'image de la volonté divine, à son image. Et si nous voulons une confirmation, nous feuilletons notre Bible et qu'est-ce que nous voyons après cette histoire ? Qu'est-ce qui suit cette histoire ? Figurez-vous, après cette demande de miettes, ce qui suit cette histoire, c'est la multiplication des pains. Pas mal, hein ? La multiplication des pains en territoire païen, précise Marc, on est dans l'évangile de Matthieu, et j'ai envie de dire la multiplication des miettes. dont l'origine est une femme. Et Dieu sait combien la volonté des femmes, justement, a été et est encore étouffée dans bien des cultures, et même dans la nôtre, trop souvent. Et c'est un peu comme pour la multiplication du vin dans l'épisode des noces de Cana, où c'était également une femme, Marie, la mère de Jésus, qui avait suscité la volonté profonde ou le désir profond de Jésus. Multiplication des miettes, du pain et multiplication du vin. Alors, il reste une scène qui menace de détruire les trois autres. C'est Gethsémané. On est dans le temps du carême, donc c'est bien d'évoquer ça aussi ce matin. Au moment où Jésus va être arrêté, il supplie son Père de lui épargner le supplice de la croix. Pour la première fois, la volonté de Dieu semble s'opposer au désir humain bien légitime de ne pas souffrir, de ne pas être torturé. « Mon Père, s'il est possible, dit Jésus, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, il ne le dit pas tout de suite, il le dit à la fin, au bout de trois fois, « Pourtant, non pas comme je veux, mais comme toi. » C'est intéressant, hein ?« Non pas comme je veux, mais comme toi. » Traditionnellement, on en a conclu, Dieu a planifié la crucifixion. Jésus aurait donc pu, comme nous tous, à un moment donné ou à un autre, douter que Dieu ne lui veuille que du bien. Mais il termine sa prière à Gethsémané avec exactement la même demande que celle du Notre Père, qu'elle soit réalisée ta volonté, qu'il se concrétise ton désir. Associé à nouveau à l'image de la coupe. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, qu'elle soit réalisée ta volonté. C'est comme si, sans chercher à comprendre, avec la confiance quasiment aveugle d'un petit enfant envers son parent, Jésus avait laissé sortir de lui une parole plus puissante que sa propre angoisse. Une parole venue d'ailleurs et surgit pourtant du plus intime de lui. En français, on dit « boire la coupe jusqu'à la lie », la coupe amère. Mais dans la Bible hébraïque, c'est ce que j'ai découvert avec bonheur, c'est que dans la Bible hébraïque, avant d'être la coupe de la destinée ou du châtiment ou de la colère de Dieu, eh bien, c'est la coupe des délivrances. C'est le premier sens, c'est la coupe des délivrances. La coupe de reconnaissance qu'on élève au cours du rituel juif de la Pâque. Et boire à la coupe de quelqu'un était, dans ce monde juif, un signe de grande intimité. Alors, j'entends cette phrase, « non pas comme je veux, mais comme toi », je l'entends ainsi, « nous la boirons ensemble, cette coupe, jusqu'à ce qu'elle devienne la coupe des délivrances ». Il suffit d'une expérience, et nous savons que c'est la même coupe. Et il m'est venu un incident qui s'est produit il y a quelques années, où j'attendais, parce que c'était presque l'heure de donner une conférence sur le thème « A-t-on le droit d'être heureux ?» Et il y avait une jeune fille de 18 ans qui passait par là, que je connaissais, et qui m'a dit « C'est quoi le sujet de la conférence ce soir ?» Donc j'ai dit « A-t-on le droit d'être heureux ?» Et elle a éclaté de rire, elle a dit « Mais c'est n'importe quoi, bien sûr qu'on a le droit d'être heureux !» Et je me suis dit, elle est jeune. Et parce qu'à force d'entendre des gens me dire qu'ils ressentent un interdit sur la vie, ben, je sais que c'est bien répandu, ce n'était pas seulement que moi. Moi, j'avais eu le sentiment de ne pas avoir le droit d'être heureuse depuis fort longtemps, mais j'y aspirais de tout mon être. Ça c'est ma volonté divine en moi qui y aspirait depuis fort longtemps. Et je devais bien pressentir que c'était aussi la volonté divine. C'était cette volonté divine en moi, que c'était son désir, sa volonté. Parce que les plus petits exaucements, les plus petites pépites de joie, les plus petites miettes de pain, je les recevais, même en ce temps-là, comme venant de sa volonté, de son désir de vie pour moi. La coupe que je buvais, Dieu sait qu'elle était amère au quotidien, mais j'ai toujours su qu'il n'y avait pas d'autre chemin possible. pour que, un jour, cette coupe devienne aussi la coupe de ma délivrance, de mon apaisement, de ma joie. Alors, en ce temps de carême que nous traversons, il me semble que nous ne pouvons pas faire semblant d'ignorer que la volonté de Dieu, au bout du compte, est plus savoureuse que le lait et le miel. Car il y a eu Pâques, et Pâques, c'est Dieu quand il fait ce qu'il veut. Amen.
Et nous vous proposons de chanter ensemble pour laisser le temps de résonner encore ces paroles en nos cœurs. Le cantique 172 dans le petit recueil Louanges et prières, célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père. pouvez prendre place. Le temps de quelques annonces. D'abord, un grand merci à Lita Basset pour cette prédication. Un grand merci pour cet engagement, cette sincérité, cette authenticité que vous mettez avec une incroyable générosité au service donc, des personnes. Par la prédication ce matin, par des livres qui sont tout à fait féconds, que je recommande très chaleureusement, en particulier le dernier livre, La source que je cherche, que vous trouverez à la sortie, qui est paru donc mercredi dernier, et dont vous nous parlerez demain soir au cours d'une conférence ici, ce qui permettra de mieux entrer dans les paroles, dans le thème de ce livre, La source que je cherche. Alors c'est vrai que ce livre, je le recommande chaleureusement pour poursuivre, approfondir notre recherche, mais aussi pour le confier, l'offrir à des personnes, parce que ça permet de redécouvrir autrement, au-delà du patois d'église, une façon de s'ouvrir à cette source ultime. Alors c'est aussi par une des formations que vous proposez, formation pour l'accompagnement spirituel. Vous permettez effectivement à des personnes de pouvoir être plus compétentes pour aider d'autres personnes dans leur cheminement de vie, mais encore et peut-être d'abord dans cette ouverture à Dieu. Donc la conférence, c'est demain soir, ici même, à 20h, en entrée libre, bien entendu. Alors, à l'issue de ce culte, vous le voyez, nous aurons une vente de gâteaux par la patrouille des loups qui vient ainsi chercher à peut-être aussi nous régaler avec des gâteaux, mais aussi peut-être pour financer un peu votre équipement.
Oui, c'est pour acheter une nouvelle tente pour ce camp 2017. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil s'il y a quelque chose qui vous plaît. Voilà.
Ok, merci beaucoup. Merci. Et nous vous souhaitons le meilleur temps possible, malgré l'attente, effectivement, pour le camp d'été. Merci à vous tous les trois. À l'issue de ce culte, il y a aussi un pot d'accueil qui est derrière la porte en bois, et c'est un temps, effectivement, où nous pouvons partager ensemble une parole, un sourire, une poignée de main, connaître quelqu'un un petit peu dans cette assemblée. Ça fait finalement une prolongation de ce temps de culte en découvrant le visage de quelqu'un. Pour cette semaine, il y a le chœur de l'oratoire qui a une répétition jeudi, comme tous les jeudis à 19h30. Mais samedi, il y a donc une initiation à la théologie chrétienne. C'est la quatrième d'un cycle de 6 rencontres, mais on peut rejoindre le cycle en cours finalement. Alors le programme de samedi prochain, c'est à propos de la vie humaine, la vie présente et la vie au-delà donc de cette vie présente. C'est à 10h donc samedi prochain dans la maison en face aux 4 rues de l'Oratoire. Il y a le banquet des lycéens qui est donc prévu samedi prochain à 12h30, 13h. Vous pouvez inviter tous les lycéens que vous connaissez à venir à cette rencontre, mais c'est mieux si quand même ils s'inscrivent auprès de moi avec un petit SMS, un petit mail. Et si vous avez des talents pour faire des tartes, vous pouvez vous porter volontaire, car effectivement, au programme donc, de ce banquet, ça sera un buffet de tartes, en fait. Donc tartes salées ou tartes sucrées. Et puis à 6h, 18h, ici même, un concert spirituel autour d'une cantate de Bach. Ça sera la cantate 190 de Jean-Sébastien Bach. Et puis le thème, c'est « Hymne à la joie » avec cette cantate, mais aussi avec une version de « L'hymne à la joie » de Beethoven, pour instruments et voix. Donc ça, c'est samedi prochain à 18h, ici même, en entrée libre. Et puis dimanche prochain, le culte avec Stéphane Lavignotte, et puis l'éducation biblique dimanche prochain. Comme vous le voyez, il y a aujourd'hui la célébration de la scène, de la communion. Bien sûr, toute personne qui le désire peut participer à ce repas en signe de son désir de prendre et de se nourrir de tout ce que Dieu nous offre en Christ. Mais bien sûr aussi, nul n'est obligé d'avoir ce geste. on peut être tout à fait engagé dans la foi, tout à fait ouvert à ce que Dieu nous apporte et ne pas souhaiter participer à cette communion, à cette scène, en tout cas aujourd'hui, donc c'est dans la liberté. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. En ce deuxième dimanche du mois, eh bien, l'offrande est intégralement reversée au diaconat, l'association d'entraide qui va au secours des démunis en notre nom.
Je vous invite à la prière. Je te bâtirai moi-même une maison, dit Dieu. Elle sera chaude comme une soirée d'hiver au coin du feu, accueillante comme l'odeur du bon pain, à l'abri de la crainte et de tous les tourments. Je te suivrai pas à pas comme une ombre. J'habiterai tes jours et tes nuits. J'accompagnerai tes hivers et j'en ferai saison de mai, à l'abri des rafales et du vent. Je ferai en toi ma demeure. J'inventerai pour toi des heures de paix. Je te délivrerai des durs labeurs. Je te bâtirai moi-même une maison et je t'inviterai à ma table. Je romprai le pain de vie pour toi. Je dirai la bénédiction sur le vin qui réchauffe le cœur. Viens, dit Dieu, entre chez moi.
Voici comment l'Évangile raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacune et chacun d'entre nous et qui se réalise par l'Esprit aujourd'hui. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Prions, invoquons l'Esprit Saint parmi nous et en nous. Souffle Saint, sois des nôtres, enthousiasme-nous en cette communion. Sois levain de cette farine, sève de ce raisin. Ce que tu as fait le matin de Pâques en levant Jésus d'entre les morts, fais-le encore aujourd'hui. Donne vie à ce pain, à ce vin, qu'il soit son corps de lumière parmi nous, pour que notre présence s'embrase d'éternité. Souffle Saint, sois des nôtres. Amen.
Et Dieu notre Père, inspire-nous pour que notre communion avec le Christ nous donne de faire corps ensemble. Chacune et chacun, unique, et solidaire dans ce corps, serviable et plein de gratitude pour ce que tu nous apportes, toi, notre Dieu, et pour ce que nous apportent d'autres personnes, grâce à toi. Et maintenant, nous pensons devant toi, nous pensons grâce à ton esprit, à ce que ton amour nous appelle à garder nous-mêmes dans notre amour, par une parole, par un geste. Et d'un même cœur, nous osons te prier comme notre Père, notre Mère à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et c'est en signe de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire. « Venez, nous dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt ». Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la coupe de la délivrance, la coupe de la nouvelle alliance qui est offerte à tout être humain. Dans le nom de Jésus.
Dans tous nos combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, j'en ai la certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les dangers présents, ni l'incertitude à venir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme. Aucune autre créature, non. Rien au monde ne pourra mettre séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez en paix dans la grâce, la joie et la force de notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen.
Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts fasse lever en chacun et chacune de nous tout ce qui est mort et nous conduise dans la vie. Lui qui est pour nous éternellement le Père de tendresse, le Fils parmi nous et le souffle libre de l'Esprit. Amen.
Oh, yeah.